Bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur Micro Rebelle pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Sidonie Verag.
Bonjour.
Bonjour Sidonie, qui vient de publier un livre, Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste. Alors Sidonie, en avril de cette année, en avril 2021, les éditions du Croquant éditent ce livre, Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste, livre que tu as donc écrit. Est-ce que tu peux nous exposer la genèse de ce livre, ce qui t'a amené à l'écrire, ce qui t'a motivé pour l'écrire ?
Oui, alors ce livre... Il est issu d'abord de ma thèse de doctorat en sciences politiques, donc que j'ai soutenue en 2016, et donc sujet sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans, que j'ai continué à approfondir après ma soutenance, mais donc qui a donné naissance à ce livre. Et donc la question du livre, c'est une question en fait qui me vient d'abord d'une interrogation militante aussi. Dans un premier temps, en tant que militante anarchiste, la surprise de voir la figure de Louise Michel que j'associais à l'histoire de l'anarchisme être utilisée par des individus de traditions politiques différentes et parfois politiquement éloignées. Et c'est ça qui a été la source de mon étonnement scientifique et c'est ça qui est ensuite devenu une question de recherche. Donc d'expliquer comment et pourquoi cette militante anarchiste, communarde, déportée sous la Troisième République, comment elle est devenue une figure qui puisse, et c'est un peu mon point final, qui puisse être proposée à l'entrée au Panthéon en 2013.
Alors justement, le sous-titre du livre, hein, « Célébrité et postérité d'une figure anarchiste » correspond bien au sommaire du livre. Hein. On a une première partie consacrée à la célébrité de Louise Michel, célébrité de son vivant. On a ensuite une deuxième partie consacrée à la postérité de Louise Michel. Et puis peut-être, en guise de conclusion, on a la réaffirmation de Louise Michel en tant que figure anarchiste. On peut peut-être suivre ce déroulement et commencer par la célébrité de Louise Michel. Alors, comment devient-on célèbre ? Et concernant Louise Michel, comment devient-on une héroïne aux yeux de ses camarades et comment devient-on un repoussoir aux yeux de ses adversaires ?
Oui, alors en fait, ce qu'il faut dire pour commencer, c'est que la célébrité de Louise Michel de son vivant, elle est particulièrement remarquable. Elle est particulièrement remarquable déjà pour une femme, hein, à une période où les femmes sont exclues des droits politiques et de la vie politique en général. D'autant plus pour une communarde, là aussi à une période, évidemment la période juste après la Commune de Paris, où il y a une répression massive, où les anciens communards sont déportés ou exilés. Anciens communards qui reviennent en France après l'amnistie en 1880, mais où toujours l'objectif des républicains, c'est un objectif d'oubli. Oublier l'événement révolutionnaire, et donc dans une période d'oubli, la célébrité d'une communarde est particulièrement remarquable, et particulièrement remarquable pour une anarchiste aussi. Donc déjà, c'est la première chose. Cette célébrité, elle est vraiment significative, elle est vraiment remarquable. Et donc, ce que je montre, c'est comment ça se fait que la célébrité de Louise Michel de son vivant est particulièrement remarquable. C'est parce que, donc, tu le disais, elle va devenir à la fois une figure exemplaire pour ses camarades, compagnons, et une figure repoussoir pour ses opposants. Cette dualité, hein, c'est parce que donc Louise Michel, elle va devenir l'incarnation de quelque chose, elle va devenir l'incarnation de la Commune évidemment d'abord, mais aussi elle va devenir l'incarnation du mouvement révolutionnaire en général et aussi des combats et des luttes pour les droits des femmes. Ce qui fait qu'elle va cristalliser autour d'elle un ensemble de discours et de représentations qui sont à la fois des discours de soutien, d'admiration, d'héroïsation, voire même de sanctification, parce que je donne une anecdote révélatrice de ça à la fin de sa vie où, en tout cas, il y avait dans les journaux le récit que certaines personnes venaient avec leur enfant voir Louise Michel pour qu'elle leur touche la tête, enfin voilà, presque pour les bénir, donc vraiment ça va jusqu'à un processus de sanctification, donc d'un côté, et de l'autre côté, des discours de haine, de décrédibilisation, on pourra éventuellement revenir dans le détail, ou en tout cas, on aura l'occasion d'en, d'en parler au LAG, mais avec des caricatures, avec des discours sur son physique, des voilà, ou vraiment des discours qui sont aussi articulés avec les représentations des pétroleuses, la louve à vide de sang, etc. Bon, tout un tas de représentations qui cherchent à décrédibiliser l'engagement politique de Louise Michel. Et donc c'est justement cette polarisation entre ses opposants ou entre ses partisans, c'est cette polarisation qui conduit à produire cette célébrité particulièrement remarquable.
Alors justement, j'ai noté, sans être exhaustif, quelques thématiques que tu abordes concernant cette célébrité. J'ai noté les chansons, les poèmes, les interviews, les rumeurs, les sobriquets. Bon, peut-être sans relire le livre, peut-être si tu pouvais évoquer un petit peu quelques-uns de ces aspects.
Oui, bah alors, sur les sobriquets, bon, il y a évidemment le surnom de Vierge Rouge, qui va devenir un label et de célébrité et surtout de postérité, puisque on l'utilise toujours aujourd'hui. Mais donc, surnom de Vierge Rouge, qui est inégalement utilisé de son vivant, c'est surtout à la fin de sa vie et au moment de sa mort que ce surnom va être utilisé, mais il y aura toujours des discours sur sa virginité. Ça, c'est des discours qui sont récurrents et qui sont là aussi à la fois des discours qui viennent de ses opposants, bon, en gros, pour dire que Louise Michel est déviante parce que elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, et qu'elle revendique le fait de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfant, donc qu'elle est déviante, que cette supposée virginité, ça prouve sa folie, il y a tout un tas de discours qui associent la démence et la virginité. Discours sur la virginité et sobriquet de Vierge Rouge, donc qui sont liés à des discours là aussi de ses opposants, mais aussi de ses partisans, qui vont un peu mettre en avant aussi cette virginité. Alors en comparant par exemple Louise Michel avec Jeanne d'Arc, il y a un certain nombre de comparaisons qui vont dans ce sens. Deux figures donc qui un peu se sont extraits de la matérialité sexuelle pour se donner corps et âme à l'engagement politique pour Louise Michel. Là aussi, ce surnom de Vierge Rouge et les discours sur la virginité cristallisent là aussi les oppositions. Après, bon, quelques autres usages, par exemple, on voit chanter la comptine La Mère Michel, par exemple, à ses conférences, notamment les conférences qui sont un petit peu perturbées par des opposants qui vont donc interpeller Louise Michel avec cette chanson. On voit aussi que sur les boulevards parisiens, il y a ceux qu'on appelle les camelots qui vendent à la criée des petits magazines, des petites brochures où on parle de la mort de Louise Michel alors qu'elle n'est pas morte, du mariage de Louise Michel avec Gambetta pour se moquer et de son refus du mariage et de ses engagements politiques. Voilà, on voit un peu comment Louise Michel, elle est aussi réappropriée par des formes plus populaires d'expression du politique, en dehors des journaux institués, des formes plus populaires d'appropriation politique, ce qui témoigne bien, là aussi, de l'ampleur de sa célébrité et de la diffusion de cette célébrité à Paris, certes, mais aussi dans d'autres villes de France.
Alors donc, la célébrité, tu l'évoques, c'est du vivant de Louise Michel. La postérité, c'est après sa mort. Et tu t'attardes sur la charnière entre ces deux moments, autrement dit, tu t'attardes sur l'enterrement de Louise Michel et les différentes controverses qui l'ont émaillée. Est-ce que tu pourrais y revenir ?
Alors, l'enterrement de Louise Michel, déjà, c'est un moment politique assez exceptionnel. Alors, bon, là, les chiffres, à nouveau, varient très largement. Disons 10 000 selon la police, 100 000 selon l'humanité. Mais quoi qu'il en soit, c'est une manifestation qui va rassembler beaucoup de monde depuis le centre de Paris jusqu'au cimetière de Levallois-Perret où elle est enterrée et où sa tombe se trouve toujours aujourd'hui. Et donc, effectivement, au moment de cet enterrement, bon, bah, ce qui va jouer, alors c'est certes le rapport de force avec la police, évidemment, et avec le gouvernement qui veut, alors pas vraiment empêcher cette manifestation, mais en tout cas empêcher que celle-ci prenne des tournures révolutionnaires et empêcher que des drapeaux rouges et noirs soient déployés, empêcher les chansons, les slogans, etc. Donc évidemment un rapport de force avec la police, mais aussi un rapport de force entre ceux qui vont se revendiquer de la mémoire de Louise Michel, puisque évidemment ce moment de l'enterrement, et ensuite on verra ça se rejouer pendant toute la postérité, mais ce moment de l'enterrement, c'est déjà un premier moment où se joue la légitimité à s'inscrire dans la filiation de Louise Michel et à être finalement les descendants et les porteurs de la mémoire de Louise Michel. Et donc ce conflit, il va être notamment particulièrement fort entre les anarchistes de l'action antimilitariste, qui sont finalement les organisateurs de l'événement, et les blanquistes qui ont tourné vers le boulangisme quelques années précédentes, quelques années auparavant, autour d'Henri Rochefort. Henri Rochefort, qui est un ami de longue date de Louise Michel, puisqu'ils se sont rencontrés sur le bateau qui les a emmenés en Nouvelle-Calédonie après avoir été condamnés à la déportation suite à la Commune de Paris. Ils ont, Louise Michel et Henri Rochefort, conservé des liens pendant les décennies suivantes. Il semblerait que Henri Rochefort versait à Louise Michel une rente qui lui permettait de pouvoir continuer son activité de propagandiste sans devoir travailler de façon salariée. Donc une amitié qui perdurait entre Louise Michel et Rochefort, mais bon, une amitié qui s'est un peu délitée dans les dernières années en raison de la façon dont l'engagement de Rochefort a tourné, donc en soutien au général Boulanger d'abord, contre Dreyfus ensuite, d'un positionnement antisémite qui a éloigné Louise Michel et Rochefort et plus largement les blanquistes boulangistes, qui a conduit à déjà des affrontements quelques années plus tôt entre les blanquistes boulangistes et les anarchistes, notamment au cimetière du Père-Lachaise lors des commémorations de la Commune de Paris, et qui se rejoue là au moment de l'enterrement de Louise Michel, puisque d'un côté Rochefort veut organiser l'enterrement, de l'autre les anarchistes refusent que Rochefort organise l'événement, et donc il y a là à ce moment-là une lutte qui sera gagnée par les anarchistes et dans l'organisation de l'enterrement et dans la revendication de s'inscrire dans la filiation de Louise Michel.
Donc on est en 1905, Louise Michel est morte et enterrée, et s'ouvre la période durant laquelle elle va passer à la postérité. Et en fait, tu pointes deux postérités. Une première postérité que tu évoques, c'est la politisation d'une figure historique, avec notamment l'instrumentalisation de Louise Michel par le PC.
Oui, alors du coup, c'est cette idée que, bon, dans les années qui suivent la mort de Louise Michel, il n'y a pas vraiment de mémoire publique, donc elle est morte en janvier. Donc, bon, il y a quelques tentatives au cimetière de Levallois-Perret chaque janvier pour la commémoration de sa mort, mais bon, qui rassemble pas grand monde. Il y a une statue, je reviens pas dessus, mais qui fait pas consensus. Et puis, le moment où sa postérité va prendre une dimension collective et publique, c'est avec la création du Parti communiste qui va organiser dès 1921 une commémoration sur la tombe de Louise Michel et qu'il organisera chaque année. Alors, il existait évidemment toujours une mémoire anarchiste de Louise Michel, mais qui ne faisait pas comme ça de commémoration publique dans la rue chaque année de cette figure. Donc le PC, il va organiser ça, ses manifestations chaque année en janvier. Ça va être un des moments forts du parti, un moment où la communauté communiste va se retrouver, se mettre en scène, se donner à voir. Et puis, ça, tous les ans, bon, évidemment, en écho, ça va avoir des effets sur la façon de parler de Louise Michel, hein, de l'associer à Lénine, de faire d'elle une précurseur de la Révolution russe. Bon, voilà, différents effets sur Louise Michel, sur cette figure, sur sa mémoire. Des oppositions, à cette mémoire communiste vont s'opposer les anarchistes de façon constante. Et cette opposition, elle sera notamment particulièrement forte après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que donc après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir dans la mémoire communiste une association entre la mémoire vive et récente de la résistance et la mémoire de la Commune de Paris. Les résistants vont devenir dialoguer les fusillés de la résistance et les fusillés de la Commune de Paris. Dans ce processus-là, dans ces recadrages mémoriels-là, du coup, le PC va insister sur la dimension patriote de la Commune de Paris et aussi, donc, en écho, sur la dimension, l'engagement patriotique de Louise Michel pour la défense de Paris. Et à ça, évidemment, les anarchistes vont s'opposer. Ils vont donc perturber... puisque en 46 est décidé que la tombe de Louise Michel, donc qui est au cimetière de Levallois-Perret, soit déplacée, elle était jusqu'alors enterrée avec sa mère dans le même tombeau que sa mère, aux côtés de ses amis Marie et Théophile Ferré, et donc est décidé que cette tombe soit déplacée au cœur du cimetière de Levallois-Perret, là où elle est toujours aujourd'hui, sur le rond-point des victimes du devoir, aux côtés des résistants. Donc c'est l'association des deux mémoires. Et donc cette cérémonie, elle sera perturbée par les militants de la Fédération anarchiste, qui refusent cette relecture patriote et patriotique de Louise Michel.
Alors moi, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en lisant ton livre, et notamment sur cet aspect l'EPC et la mémoire de Louise Michel. J'ai découvert effectivement que Louise Michel aurait été soutien à la Révolution russe et au bolchevisme.
Oui, effectivement, du coup, le PC va mettre l'accent sur cette idée-là par l'intermédiaire d'un ancien anarchiste qui rejoint le PC, qui s'appelle Ernest Giraud, et qui était un ami de Louise Michel, qui est plus jeune qu'elle, mais qui l'a connue sur la fin de sa vie. Giraud et Louise Michel avaient fait une tournée de conférences en Algérie, et donc Giraud va rejoindre le Parti communiste, et il va un peu devenir le promoteur, l'entrepreneur de la mémoire de Louise Michel au sein du Parti communiste, et donc il va faire le récit d'anecdotes sur Louise Michel, et notamment d'une qu'il raconte chaque année dans l'Humanité, qui est que sur son lit de mort, Louise Michel lui aurait dit « Regarde, voilà, c'est en Russie c'est de Russie que viendra la révolution, la lueur se lève à l'est, et donc c'est un moyen de faire de Louise Michel finalement une précurseur des révolutions à venir et un soutien aussi un soutien à ces révolutions russes.
Alors donc il y a ensuite une deuxième postérité, où là il n'est plus du tout question de politisation, mais au contraire de déconflictualisation.
Ce que je montre dans le livre, c'est que finalement, effectivement, en tout cas dans la mémoire publique, se succèdent deux manières de parler de Louise Michel, qui ne sont pas... En tout cas, la deuxième n'est pas exclusive de la première, c'est-à-dire que il continue d'exister une mémoire conflictuelle et révolutionnaire de Louise Michel, mais que finalement, publiquement, va se substituer à cette mémoire révolutionnaire portée par le Parti communiste, va se substituer une autre forme de mémoire publique à partir des années 1970 et une mémoire effectivement plus pacifiée. Alors comment ça se produit ? C'est que donc dans les années 70 il va y avoir deux éléments d'explication qui sont pas dépendants l'un de l'autre mais qui dans la figure de Louise Michel se croisent. Le premier, c'est le centenaire de la Commune de Paris en 1971, à l'occasion duquel un certain nombre de un certain nombre de nouvelles façons de parler de la Commune et d'interpréter la Commune vont se développer, en opposition à l'hégémonie mémorielle du Parti communiste, hein, et des nouvelles façons historiennes, sociologiques, avec par exemple Jacques Rougerie, qui vont mettre l'accent un peu sur la psychologie et la sociologie des communards. Cet accent-là sur la psychologie et la sociologie des communards va avoir un effet, là encore, sur la façon de parler de Louise Michel. Et cet effet, on le voit traduit notamment dans la biographie qui va être écrite par Edith Thomas de Louise Michel, qui sera publiée de façon posthume en 1971. Et donc, dans cette biographie, Edith Thomas qui, finalement, lit et interprète Louise Michel sous l'angle de la passion, qu'elle montre, enfin, selon elle, voilà, l'engagement total de Louise Michel dans la lutte politique s'explique par la passion, et notamment, dit-elle, par la passion amoureuse. Et donc, elle va développer toute une interprétation centrée sur le fait que Louise Michel était amoureuse de Théophile Ferré. Théophile Ferré qui a été fusillé par les Versaillais après son arrestation, après la Commune, et que, pour Edith Thomas, finalement, c'est Louise Michel a eu le cœur brisé, et que c'est pour rester, dit-elle, je la cite, hein, pour rester digne de Théophile Ferré, qu'elle se serait tout le reste de sa vie engagée. Donc ça, ce côté passion amoureuse, et puis après il y a aussi un peu un côté passion mystique, que voilà, Louise Michel un peu à une éducation un peu catholique, et que une ancienne croyante, et que du coup elle aurait un peu une forme de dévotion à la lutte qu'elle aurait, et pas que à la lutte, et donc une dévotion aux pauvres et aux animaux, et voilà. Et donc c'est mettre l'accent sur les qualités morales de Louise Michel, et ça va particulièrement apparaître notamment dans cette biographie. Donc le centenaire de la Commune en 1971. Et en même temps, parallèlement, se développe aussi l'histoire des femmes, et l'histoire des femmes notamment à l'université, et donc va être finalement, d'une certaine manière, redécouvert le fait que Louise Michel était une femme, et donc va aussi, cet aspect-là de Louise Michel va être mis en avant. Il va parfois croiser l'aspect précédent, hein, et c'est ce qu'on retrouve aussi chez Edith Thomas, c'est l'idée que l'engagement de Louise Michel est passionné parce qu'elle est une femme, donc on a aussi une lecture essentialiste aussi de Louise Michel en tant que femme, mais donc ces deux dimensions vont amener un petit peu à la reconfigurer, à la relire. 1981, élection de François Mitterrand, et en particulier nomination d'Yvette Roudy au ministère des Droits de la Femme. Yvette Roudy qui est déjà familière et admiratrice, disons, de Louise Michel, en tout cas qui aime cette figure et qui a cette figure dans son panthéon personnel de figures historiques. Et donc Yvette Roudy finalement, l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir, c'est le moment où l'hommage à Louise Michel va s'étatiser. En tout cas, l'État va prendre en charge une partie des hommages à Louise Michel. Donc Yvette Roudy, elle va organiser des expositions pour, parce que donc elle est à l'origine du premier des premières célébrations, enfin des premières du premier 8 mars en France, et donc à l'occasion du 8 mars, elle va organiser des expositions avec les grandes figures de l'histoire, où on va retrouver toujours Louise Michel. Elle va faire éditer aussi des séries de timbres, notamment il y aura un timbre à l'effigie de Louise Michel, et donc tout ça finalement participe à faire entrer la commémoration et la mémoire de Louise Michel dans les sphères du pouvoir étatique, et à nationaliser et étatiser sa mémoire jusqu'à ce point d'orgue que constitue la proposition de la faire entrer au Panthéon en 2013.
Et donc ce que tu indiques concernant cette étape, c'est la dimension méritocratique de l'histoire des femmes qui est mise en avant.
Oui, c'est une vision individualiste et méritocratique de l'histoire des femmes, c'est-à-dire que La façon dont Yvette Roudy, mais au-delà d'elle, la façon dont le Parti Socialiste, tel qu'il va penser l'histoire des femmes, c'est une histoire des femmes centrée sur quelques personnalités exceptionnelles, qui seraient exceptionnelles par leur engagement, par leur lutte, donc Louise Michel entre autres, mais donc un accent qui est mis sur certaines figures remarquables, par leur engagement spécial et exceptionnel, plutôt que sur les luttes collectives, plutôt que sur la dynamique collective et le mouvement social qui conduit à des rapports de force qui permettent que les femmes obtiennent des droits et non pas des figures seules qui, par leur engagement, auraient permis que ces droits soient adoptés.
Et donc, je continue à suivre le sous-titre de ton livre. Louise Michel est donc une figure anarchiste. Alors, tu peux peut-être commencer par revenir sur ce que c'est que l'anarchisme, très synthétiquement peut-être, et puis évoquer le dernier chapitre de ton livre. Louise Michel est toujours une figure anarchiste.
Oui, effectivement, donc j'ai fini le livre comme ça, parce que bon, après avoir montré comment Louise Michel était devenue communiste, puis comment elle est devenue républicaine, bon, je pouvais pas ne pas finir en disant qu'elle était toujours anarchiste. Donc bon, qu'est-ce que l'anarchisme? Alors ça, c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée, parce que bien entendu, l'anarchisme de la fin du 19e siècle n'est pas tout à fait celui d'aujourd'hui, mais disons, toujours est-il que c'est la volonté de penser une forme de vie en société et d'organisation collective débarrassée des pouvoirs, débarrassée des hiérarchies et des rapports de domination, donc que ce soit l'État, la religion, le capitalisme, mais aussi le patriarcat, et donc toutes les formes d'exploitation et de domination, toutes les formes de pouvoir. Bon, il y a plusieurs tendances dans l'anarchisme, mais bon, je rentrerai pas autant dans le détail, mais en tout cas, il y a toujours eu une mémoire des anarchistes de Louise Michel. Louise Michel comme étant une figure de référence du mouvement anarchiste, alors qui n'est que très rarement considérée comme, ou même pas du tout considérée comme une théoricienne de l'anarchisme, ce qui peut être discuté en tout cas, puisque Louise Michel a beaucoup écrit. Elle a beaucoup écrit, certes, de romans, de poésie, mais bon, on peut aussi questionner la façon de théoriser par et avec le roman, mais bon, c'est une parenthèse. Elle a aussi écrit beaucoup d'articles de presse. Certes, elle n'a pas écrit un texte, ou un ouvrage qui synthétiserait sa pensée politique, donc du coup, ça amènerait à repenser un petit peu la façon dont qui on considère et pour quelles raisons comme étant théoricien politique. Mais en tout cas, Louise Michel, elle propose une théorie de l'action, une théorie anarchiste de l'action. C'est ce qu'on voit notamment dans La Commune, son ouvrage sur La Commune, où vraiment sa lecture de La Commune, c'est une lecture anarchiste qui n'est pas centrée sur les prises de décision, sur les discussions du gouvernement, sur les actions mises en place, mais qui est vraiment centrée sur l'action collective du peuple dans la commune. Bon, bref, donc une mémoire anarchiste qui ne reconnaît pas forcément Louise Michel comme une théoricienne, mais qui, toujours, fait de Louise Michel une des figures principales de son histoire, et donc une mémoire qui s'est aussi construite, je l'ai dit un petit peu pour les communistes déjà, qui s'est aussi construite en opposition face à ces appropriations qui émergent les unes après les autres, qui étendent l'espace d'appropriation de Louise Michel, mais qui, bien souvent, oublient de dire que Louise Michel était une anarchiste, et c'est ce qu'on retrouve avec cette mémoire républicaine, socialiste, qui, du coup, met en avant Louise Michel en omettant bien souvent de préciser cet engagement anarchiste de Louise Michel.
Alors, il y a beaucoup d'aspects que tu abordes dans ton livre. Je vais en évoquer quelques-uns pour donner envie de lire le livre, et puis peut-être aussi, moi, ce sont des points qui m'ont beaucoup intéressé, parce qu'ils étaient nouveaux. Le premier point, c'est la sexualité de Louise Michel. Alors, donc, déjà de son vivant, elle a été décriée, c'était une frustrée sexuellement, il lui aurait fallu un mari. La Vierge Rouge que tu évoquais tout à l'heure, et puis aujourd'hui, l'évocation de son éventuelle homosexualité, c'est évoqué par certains, c'est refusé par d'autres, hein, Emma Goldman en particulier. Est-ce que tu peux resituer un peu cette problématique ?
Oui, bah alors en fait, cette question de la sexualité, effectivement, elle est importante dans, et dans la célébrité, donc tu le disais, et aussi dans la postérité de Louise Michel. Et donc le fait que le surnom de Vierge Rouge connaisse comme ça une postérité remarquable témoigne aussi de, bah, finalement, un peu cette centralisation mise sur la question sexuelle de Louise Michel, avec donc des oppositions à cette centralisation, le fait de dire est-ce que pour les hommes on s'intéresse à leur vie sexuelle et à leurs amours, est-ce que c'est vraiment ça qu'on met en avant dans les mémoires collectives et les mémoires politiques des hommes du passé, première opposition à cette centralisation sur la question sexuelle. Et puis, ensuite, cette question, effectivement, qui, je le disais en parlant d'Edith Thomas, où elle lit la vie de Louise Michel à travers son amour tragique pour Théophile Ferré. Il y a aussi l'idée d'une potentielle relation entre Louise Michel et Victor Hugo, puisque donc Louise Michel avait envoyé, quand elle était jeune, des poèmes à Victor Hugo qui, semblerait-il, lui répondaient. Ils se seraient rencontrés à deux reprises à Paris, et puis bon, bah là, il y a dans la mémoire et dans l'histoire des discussions sur ce qui se serait passé entre Louise Michel et Victor Hugo lors de ces deux rencontres. Mais donc, finalement, il y a voilà, ces deux histoires avec Victor Hugo et avec Théophile Ferré qui, finalement, reviennent un peu dans la façon de parler de la biographie de Louise Michel et qui, donc, mettent l'accent non seulement sur sa question sexuelle, mais aussi donc sur son potentiel, sur sa potentielle hétérosexualité, ce qui par ailleurs de dire que déjà rien que le fait d'appeler Louise Michel la Vierge Rouge, donc de postuler que Louise Michel serait vierge parce qu'elle ne s'est jamais mariée avec un homme et n'a pas eu d'enfant, postule son hétérosexualité, laisse de côté les relations que Louise Michel a eues avec de nombreuses femmes tout au long de sa vie, par exemple la dernière avec Charlotte Vauvel, avec qui elles se sont exilées en Angleterre et elles vivaient ensemble en Angleterre. Charlotte Vauvel l'accompagnait dans ses tournées de conférences. Finalement, la possibilité de son lesbianisme est apparue dès les années 20, donc où il y a eu un texte d'un chercheur allemand qui a fait un chapitre sur donc un ouvrage sur l'homosexualité, sur les figures homosexuelles. Et il y avait un chapitre sur Louise Michel, donc que Emma Goldman a contesté puisqu'elle avait écrit un courrier à ce chercheur pour dire que c'était que Louise Michel n'était pas que Louise Michel n'était pas homosexuelle. Mais bon, du coup, du côté des États-Unis, existe la possibilité du lesbianisme de Louise Michel par le biais de cette controverse, disons, entre Emma Goldman et ce chercheur allemand, alors qu'en France, c'est quasi inexistant dans la postérité, dans les mémoires de Louise Michel et dans les biographies de Louise Michel. La possibilité de son lesbianisme est complètement évacuée pour laisser plutôt place à ses supposés amours hétérosexuels avec Théophile Ferré ou Victor Hugo.
Alors, d'autres petites touches que tu abordes, notamment concernant la postérité de Louise Michel, la question des noms de rue, et puis la question des manuels d'histoire, où tu en as étudié beaucoup.
Ouais, les noms de rue et les manuels d'histoire, finalement, c'est deux autres panthéons nationaux ou républicains qui me permettent de voir un peu la circulation de cette figure de Louise Michel et de sa mémoire dans d'autres espaces de célébration collective. Donc, en fait, l'un comme l'autre, finalement, illustre bien et affirme et confirme bien la façon dont je présentais tout à l'heure la mémoire de Louise Michel. C'est par exemple notamment donc les noms de rue, où jusqu'aux années 70, bon déjà il y a très peu de noms de rues qui portent, il y a très peu de rues qui portent le nom de Louise Michel, et puis il y a une multiplication de ces rues à partir des années 70, jusqu'à ce que Louise Michel devienne, et elle est aujourd'hui la cinquième femme la plus choisie comme nom de rue, et la première femme du domaine politique, puisqu'avant c'est Notre-Dame, Jeanne d'Arc, etc. Donc Louise Michel, qui est un des noms de rue, un des noms le plus choisi pour les rues et le plus choisi pour les établissements scolaires aussi. Donc je montre un petit peu comment ça s'articule aux dynamiques que j'évoquais tout à l'heure. Et même chose pour les manuels scolaires, puisque là aussi, quand on regarde aujourd'hui les manuels scolaires, on voit assez peu de place laissée à la Commune de Paris, mais la place qui lui est laissée est toujours quasiment consacrée que à Louise Michel, et il peut y avoir une pleine page sur Louise Michel quand il y a assez peu de choses sur la Commune de Paris par ailleurs.
Très bien, on va s'acheminer vers la fin de cet entretien, sauf si tu as d'autres points à aborder. Alors sinon, pour parler un peu de toi, est-ce que cette page Louise Michel est tournée? Quels sont les travaux sur lesquels tu es actuellement? Est-ce que tu as d'autres portes qui s'ouvrent?
La page Louise Michel est jamais complètement tournée. Alors bon, là, du coup, la publication de cet ouvrage marque un peu la fin de ce travail-là, spécifiquement sur la célébrité et la postérité. Bon, sachant que, du coup, j'ai travaillé un petit peu par ailleurs, plutôt sur la pensée politique de Louise Michel, notamment dans la préface que j'ai faite à la réédition de La Commune, qui est sortie là aussi fin 2020, mais donc là aussi dans le cadre du 150e. Et puis, globalement, je m'intéresse un peu à l'anarchisme féministe ou féminisme anarchiste de la fin du 19e siècle, début 20e siècle, où je quitte pas complètement Louise Michel. Il y a toujours Louise Michel là-dedans, mais donc pour l'aborder de façon plus générale à travers aussi d'autres autrices et puis d'autres supports. De réinscrire ça dans un mouvement collectif dépersonnaliser l'anarchisme féministe en sortant de Louise Michel.
Et donc je rappelle que tu seras au LAG, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin, le samedi 19 juin à 10h. Et je rappelle également ton livre, Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste, aux éditions du Croquant. Donc c'est un livre qui se lit très bien, on y apprend beaucoup de choses avec de belles analyses. Un livre également qui comporte des illustrations qui se marient bien avec les analyses du livre. Merci Sidonie.
Eh bien, merci à toi pour cette invitation.
Et à très bientôt sur Micro Rebelle.
Au revoir.